Chapitre 16. 24 octobre 2010. Je suis passée à l'état civil. Je sais pas si tu te souviens d'elle, c'est Noël Pic qui y bosse. Je lui ai demandé de regarder si à tout hasard ta tante n'avait pas une jumelle. Elle est née en 1946, juste après la guerre. Ça a pu se faire à l'époque de séparer les bébés pour avoir moins de bouche à nourrir. Assise face à moi, Nathalie Grandjean n'a pas changé. Pas pris un gramme ni une ride. Elle a troqué ses vêtements d'adolescente, jean troué et t-shirt grunge, contre un tailleur en flanelle bleue. Grande, rousse à la peau blanche et aux épaules carrées, elle tient un petit carnet dans ses mains et, comme l'inspecteur Colombo, note frénétiquement ses propres observations puisque pour l'instant, elle ne m'a posé aucune question. Elle sent la laque, elle nette, comme ma mère autrefois. Quand Nathalie est arrivée au monde et qu'elle m'a embrassée, j'ai eu un vertige. Cette odeur m'a rappelé maman avant ses concerts. Juste avant de retrouver l'orchestre, elle s'en aspergeait les cheveux. Après, ses mèches étaient comme du nylon et durcissaient sous les doigts. Elle me disait « Agnès, arrête, tu vas me décoiffer !» Et dès qu'elle tournait le dos, son violon et son archet à la main, je restais dans la loge des musiciens et j'en mettais à mon tour. Ça raidissait mes nœuds. J'ai toujours eu les cheveux longs et emmêlés. Maman avait beau me les coiffer chaque matin et chaque soir, c'était des hurlements. Et quand j'allais chez ma tante, elle menaçait de me les faire couper à mon retour si je ne les démêlais pas. J'étais terrorisée à l'idée d'avoir les cheveux courts, de pouvoir être confondue avec un garçon. Puis elle s'adressait à ma tante. « S'il te plaît, Colette, un shampoing démêlant tous les 3 jours. » Nathalie tourne quelques pages de son carnet et lit à voix haute. Colette Septembre, née le 7 février 1946, Jean Septembre, née le 7 mars 1950. Aucune trace de jumeaux. En guise de réponse, je lui balance. Tu m'as volé mon amoureux. Elle n'a pas la moindre idée de ce dont je parle. Jacques Daubel, un jour à la piscine. Vous vous êtes embrassé derrière mon dos. Je la vois réfléchir. Le souvenir lui revient. L'image passe dans ses yeux. Elle en maillot de pièces rouges, lui un slip de bain marine avec 3 rayures vertes sur le côté. Elle, le corps sculpté d'une nageuse à la peau laiteuse, plus grande que lui, la peau dorée et luisante comme un chou caramel. Ils sont à l'ombre, derrière le bâtiment où on achetait les bonbons et les glaces. Ils ont posé leur cornet contre le mur, la framboise a coulé sur le crépi, une petite flaque de sang. Nathalie se met à rougir jusqu'aux racines. « Il y a prescription !» souffle-t-elle. « Il n'y a jamais prescription en matière de trahison. »« Agnès, tu plaisantes, là ? On parle du cousin d'Hervé, le crâneur à la moto ?»«
Oui. »«
On avait quel âge ?»« L'âge de s'embrasser. 13 ans. Été 85. »« J'ai cru que j'allais crever quand je vous ai vu. »« Tu savais que je sortais avec lui ?»«
Oui, »
avoue-t-elle sans ciller. Ce soir-là, je suis rentrée dévastée, en larmes. Et ma tante m'a vraiment parlé pour la première fois. Alors merci. Elle referme son carnet, mal à l'aise mais rassurée. Je ne vais pas lui mettre une raclée. J'ai écrit mon premier scénario avec cette histoire. 3 adolescents dans une piscine. Un beau garçon, une belle fille et une ombre, une gamine en forme de fil de fer. Je l'ai situé à la piscine de l'Isle-Adam. Tu veux grignoter quelque chose, j'ai faim. Je me lève sans attendre sa réponse et trouve la personne qui gère les chambres et les commandes en dehors de l'ouverture du restaurant. Une jeune femme très maigre, avec une longue natte dans le dos, relativement antipathique, qui roule des yeux paniqués à la moindre demande, comme si commander un thé ou un verre de vin relevait de l'excentricité la plus débridée. Je retrouve Nathalie dans le minuscule salon du hall de l'hôtel. Elle n'a pas bougé. Comme une poupée de porcelaine qu'on aurait posée là, au bord du canapé. « J'ai adoré ton dernier film », me dit-elle. « Ça fait un bail. Combien ?
4 ans.
T'en prépares un autre ?
Non.
À ton avis, qui est enterré à la place de ma tante ? Il faut fouiller dans son passé pour le savoir.
Dans le passé de qui ?
De ta tante. J'aimerais bien, mais je peux pas entrer dans son dernier domicile.
Pourquoi ?
Il va y avoir une enquête. L'entrée est interdite. » Elle rouvre son carnet pour noter quelque chose.
Tu es mariée?
Je vis avec ma compagne. Depuis la piscine, les choses se sont précisées. Les mecs, c'est pas mon truc.
Ah merde! Alors j'ai vraiment pas eu de chance.
Nous éclatons de rire en même temps.
J'ai pensé à quelque chose. Toi qui travailles au journal, est-ce que tu pourrais retrouver l'avis de décès de Colette? Celui d'il y a 3 ans.
Bien sûr.
Tu veux que je fasse un article à propos du double décès de ta tante?
Ouais.
Un article, ça pourrait délier des langues.
Ou pas, on verra bien.
Dès le lendemain, l'article de Nathalie a été repris sur le site du Parisien Aujourd'hui en France. Et les magazines du type détective ont brodé en imaginant une histoire de vol de corps. Ma tante, si discrète, qui parlait tout bas pour ne déranger personne, qui jamais ne faisait de bruit même en tirant une chaise vers elle, ma tante si délicate, qui semblait marcher et bouger dans du silence, aurait détesté tout cela. Enfin, je crois. Elle devait tout de même savoir que sa seconde mort ne passerait pas inaperçue. Même si pour elle, ce qui se passait à Guignon restait à Guignon. « À part quelques joueurs, personne ne nous connaît », répétait-elle souvent. Ou alors elle pensait mourir plus tard. Quand une certaine presse a su que la femme morte il y a 3 ans était de la famille de Pierre et Agnès Duguin, le célèbre acteur et la réalisatrice, il y a eu un encart dans un tabloïd. Dans la rubrique « Paglop », avec une photo de Pierre et moi datant de Mathusalem pour illustrer 3 lignes. Ils découvrent qu'un membre de leur famille décédée ne l'était pas. Mais qui se cache dans la sépulture? De quoi donner la chair de poule et écrire un nouveau scénario?